l'utilisation de la raison pour comprendre le monde, et ça, c'est la science, mais aussi pour organiser le monde, et ça, c'est la politique.
Si je vous comprends bien, Spinoza a encore des choses à nous dire sur des choses très compliquées encore aujourd'hui, la laïcité, le contrat social, par exemple. Spinoza a encore des choses à nous dire là-dessus.
Et plus que ça, il a beaucoup à nous dire sur la guerre en Ukraine, par exemple.
Ah, qu'est-ce qu'il nous dit sur la guerre en Ukraine?
Alors, il a organisé... Qu'est-ce qui se passe dans la guerre en Ukraine? La guerre, c'est une invasion de la Russie à l'Ukraine, c'est clair. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une attaque des dictatures aux démocraties libérales. C'est une attaque des dictatures au monde de Spinoza. Car derrière la Russie, on comprend très bien qu'il y a la Chine, que c'est une dictature, l'Iran, une dictature, la Corée du Nord, une autre, la Biélorussie et d'autres dictatures qui cachent son visage. Et alors, Spinoza, vraiment, il prenait un monde de liberté où les gens pouvaient choisir, où on n'était pas chassé pour ses idées, mais ce n'est pas ce qui se passe dans ces pays-là. La Russie, il y a un homme aujourd'hui qui est en prison parce que sa fille a fait un dessin contre la guerre à l'école. Il est en prison à cet instant. En Chine, ils ont plus d'une centaine de camps de concentration avec des millions de personnes y enfermées par des raisons d'ethnie et de race. Et en Iran, on a tué il y a quelques semaines une fille au Tran parce qu'elle n'utilisait pas le voile dans son visage. Et alors, ils sont des sociétés que Spinoza décrit comme obscurantiste. Mmh. Et c'est ce monde-là qui est en train d'attaquer, même par exemple, Donald Trump a été élu aux États-Unis,
ouais,
mais ça a été manipulé par la Russie en utilisant les trolls et tout ça. Le Brexit en Angleterre, la même chose, a été manipulée par la Russie.
Là aussi, Spinoza pourrait peut-être nous dire des choses sur tout ce monde des fake news, de la post-vérité.
Absolument.
Comment distinguer le vrai du faux? C'est une bonne méthode.
Absolument, absolument. Alors, c'est le monde Spinoza qui est sous attaque dans un contexte politique, mais aussi scientifique. Les terraplanistes, les gens qui disent...
Oh, la Terre est plate.
La Terre est plate, que les vaccins ne marchent pas, l'homme n'est pas arrivé à la Lune, tout ce genre d'idées, c'est aussi une attaque à Spinoza. Et c'est pourquoi l'homme qui a tué est un livre important, parce que dans cette période où la raison, le monde de la démocratie libérale, de la science est sous attaque, il faut revenir aux sources au moment où toutes ces idées sont nées.
Au moment de Spinoza, Spinoza donc comme arme face aux dictatures, José Rodríguez dos Santos, est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui peut nous aider à penser le défi écologique? On parlait tout à l'heure de Dieu qui est la nature, justement, pour Spinoza.
Oui.
Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut penser en globalité? C'est quelqu'un qui pense le tout et c'est parti. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut nous aider sur la question écologique, tiens?
On peut dire que Spinoza, dans son temps, ce problème écologique n'existait pas du tout, parce que c'est le commencement du capitalisme et tout cela. Mais c'est clair, à mon avis, quand on lit Spinoza, surtout dans l'éthique, que pour lui... Tout ce que l'homme fait, et je vais dire une chose qui est un petit peu polémique, mais c'est implicite dans le contexte des idées de Spinoza, tout ce que l'homme fait est naturel, parce qu'il n'y a que la nature. Mmh. Voire même la pollution, elle est naturelle, parce que c'est un produit de l'homme, et l'homme est naturel, alors il n'y a que des choses naturelles dans le monde, même si on pense que ce n'est pas le cas. Mais... Au-delà de dire ça, il faut dire aussi qu'il considérait qu'il est important de vivre en liberté. Et la liberté a besoin, évidemment, de la vie et de la santé. Alors,
mais aussi peut-être tout simplement des autres vivants. Parce que finalement, tout ce que l'homme fait, je vous entends bien, tout ce que l'homme fait a un impact donc, sur la nature. Donc, par exemple, ça change notre rapport aux animaux, peut-être.
Ah, mais absolument. C'est une conséquence. Mais ce sont des problèmes qui n'étaient pas présents à son époque, parce que ce sont des problèmes relativement récents.
On parle de religion, on parle de Dieu. On écoute justement le pape François, tiens.
Et plat traîne la vie de manière mécanique, sans passion, sans élan, sans désir. Et dans notre société européenne, on peut tomber malade de tout cela. Cynisme, désenchantement, résignation, incertitude et un sentiment général de tristesse.
La tristesse. quella tristezza
cette
nascosta,
tristesse, oh. Cette tristesse qui est cachée dans les cœurs. Quelqu'un a décrit cela comme des passions tristes. Et c'est une vie sans tressaillement.
Le pape François, dans un discours très récent, hein, c'était à Marseille, qui parlait de quelqu'un qui a parlé de passion triste. C'est Spinoza, non?
Oui, Spinoza, il prenait la joie. Mais la joie, ce qu'il voulait dire quand il parlait de la joie, c'était vivre en connaissance des choses, savoir comment le monde il fonctionne. Il disait par exemple que le mal et le bien, ça n'existe pas, ce sont des concepts. Pour moi, le mal, c'est une chose qui me fait mal. Par exemple, imaginons-nous que je suis un supporter d'Anderlecht et vous êtes un supporter de
l'Union Saint-Gilloise.
Ok, oui. Très bien. Alors, si Anderlecht gagne, c'est bon pour moi et c'est mauvais pour vous. Mais tout est d'une certaine façon relatif. Mais il prenait la joie dans le sens de connaître les choses et accepter les choses. Il disait être triste avec par exemple une maladie, ça ne fait aucun sens parce que la maladie, elle fait partie de la nature. Il faut accepter la nature. Et dans un sens, nous mourrons biologiquement, mais dans un sens, nous resterons là parce que nous faisons toujours partie de la nature. Et dans ce sens, il n'a pas aucun sens d'être triste. Il faut avoir la joie de connaître les choses.
Est-ce que ce n'est pas un peu le paradoxe de ce livre? On y revient, l'éthique donc de Spinoza. Au fond, c'est un monument de rationalité, mais pour nous parler aussi beaucoup d'émotions, de sentiments. Vous parlez de joie ici, de tristesse. Il nous parle beaucoup de ces sentiments de vie, Spinoza.
Oui, c'est le double langage de Spinoza. Il utilisait des mots religieux pour dire des choses contre la religion, par exemple. C'est le cas de quand il parle de la joie et tout ça. C'est dans ce sens, dans le sens de... Et ce qu'il voulait parler, c'était de la raison. Il considérait que les émotions étaient amenaient l'être humain à la servitude. Pas car les religions manipulaient, les politiciens manipulaient les émotions des gens. Il fallait toujours utiliser la raison. C'est ce que je disais, utiliser la raison pour comprendre le monde, et ça c'est la science, et pour organiser le monde, et ça c'est la démocratie libérale.
Comment le monde religieux perçoit aujourd'hui Spinoza? Question très simple, il est toujours excommunié?
Oui, il demeure. On a fait une sorte de révision de son procès, mais finalement on a décidé en Amsterdam avec des rabbins de retenir cette excommunication parce qu'il était vraiment en confrontation. En effet, quand il a été excommungué, il a dit au rabbin: mais si vous voulez, je peux vous aider à écrire ma excommunication. Il y avait un certain fatalisme chez lui. Il acceptait son destin.
On parlait d'émotion tout à l'heure, peut-être encore un mot là-dessus. Chez Spinoza, on n'oublie pas le corps, tout simplement. C'est un mot qu'on n'a pas encore cité jusqu'ici. Il est question de corps aussi, il est question de puissance chez Spinoza, il est question d'action en fait, d'agir aussi.
Oui, il disait qu'en effet, il n'existe que le corps. Tout le reste est une conséquence de cela et il nous faut agir dans le sens d'obtenir la compréhension des choses, de nous organiser pour être libres et en le faisant, nous serons en accord avec la nature car les êtres vivants sont nés libres et être libre, c'est notre condition naturelle.
Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, vous avez maintenant toutes les raisons, je crois, de lire Spinoza et de lire aussi, bien sûr, le dernier roman de José Rodríguez dos Santos. Ça s'appelle Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Merci d'avoir été avec nous.